BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé, la seule émission qui parle santé simplement. Et tout de suite le sommaire.
Cette semaine dans Check-up santé, prenons soin du cœur des femmes. Les maladies cardiovasculaires sont leur première cause de mortalité. Pourquoi et comment améliorer la prévention ? Isabelle Veil, présidente de l'association Agila, qui a lancé un grand mouvement de sensibilisation, sera sur notre plateau. Dans le dossier de la semaine, y a-t-il urgence aux urgences ? Dans le secteur privé comme dans le public, les services d'urgence sont au bord de l'asphyxie. Quelles sont les réformes à mettre en œuvre pour améliorer la prise en charge des patients ? Réponse avec Pascal Chansard, vice-président France d'SOS Médecins, et Olivier Le Pennetier, président de l'intersyndicale nationale des internes. Sans oublier évidemment les news de la semaine et la chronique high-tech. Bienvenue dans Check-up Santé.
On ne l'attendait pas, mais il est bien là. C'est Julien Gagliardi et son Actu Santé.
BFM Business, Check-up Santé, les news.
Bonjour Julien.
Bonjour Fabien.
Alors on commence cette semaine avec une nouvelle passe d'armes entre l'industrie du tabac et le ministre de la Santé.
Oui, et attendez-vous certainement à une hausse des prix du tabac. Et justement, pour bien comprendre ce qu'il se passe, il faut revenir sur les épisodes précédents. Acte 1, en début d'année, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, fait entrer en vigueur le paquet neutre. Et surtout, deux nouvelles taxes sur les prix des paquets de cigarettes. Acte 2, les fabricants, et en France, ce sont eux qui fixent les prix de vente chez les débitants de tabac, n'avaient pas répercuté la hausse sur le grand public, préférant renier un peu sur leur marge. Sauf que Marisol Touraine, qui, elle, espérait une hausse des prix, avait prévenu de fait que d'autres taxes arriveraient pour contraindre, pour pousser un peu plus les industriels à augmenter leurs prix en bureau de tabac. Acte 3, ce qui devait arriver, arriva. Un petit décret est paru discrètement il y a quelques jours au journal officiel annonçant une hausse des minimums de perception. Ça revient à dire, je vous passe les détails, à finalement augmenter les prix sur les produits les moins chers.
Alors que vont faire les industriels ? Augmenter leurs prix ou plutôt diminuer leurs marges ?
Eh bien justement, c'est toute la question qu'ils se posent en ce moment même. Ils ont encore une petite semaine pour transmettre aux douanes leur nouvelle liste de prix et ensuite l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs va se faire sous un mois. Donc, si augmentation il y a, d'une part, ce n'est pas pour tout de suite, et ça devrait donc concerner seulement les produits type tabac roulé ou les paquets de cigarettes les moins chers, ceux que vous trouvez notamment à 6,50 €. Chez votre buraliste, il devrait prendre 10 à 20 centimes.
Comme d'habitude, on n'a rien compris sur les campagnes anti-tabac, puisque depuis le temps qu'on parle de campagnes anti-tabac et que les prix augmentent, la consommation tabagique n'a baissé en 20 ans que de 5%. C'est dire si les actions sont nulles et non avenues. Alors, on continue avec Julien, avec ces sprays purificateurs d'air, finalement pas si bons que ça pour nos poumons.
Et oui, ils s'appellent Febreze, Pure Essentielle, Lacroix, Sanitol et bien d'autres. Vous les connaissez tous et toutes. Leur publicité nous dit une promesse d'un intérieur frais, sain et purifié. Eh bien, selon 60 millions de consommateurs, 46 de ces produits contiendraient des allergènes, source, et c'est assez paradoxal, de pollution intérieure. Le magazine a relevé dans certains produits, je cite, la présence de substances irritantes, voire toxiques, et même dans certains, des traces de pesticides sont concernées. Des déodorisants, des antiacariens et des désinfectants. De leur côté, les industriels du secteur ont crié à l'amalgame et mettent en avant l'ultra-réglementation de leur métier qui sécurise, selon eux, le consommateur. Moralité, Fabien, ouvrez vos fenêtres, finalement c'est peut-être suffisant.
Peut-être. Alors, on termine avec cette étude sur la santé des artisans du BTP. Et c'est pas franchement la forme.
Non, c'est pas la forme. Ils sont près d'un sur trois à considérer ne pas être en bonne santé, ce qui est quand même pas mal. C'est ce que nous révèle un baromètre qui a été réalisé par la CAPEB il y a quelques jours. La CAPEB, c'est le syndicat des artisans du bâtiment. Et rapidement, quelques chiffres. Plus de la moitié de ces artisans du bâtiment se disent stressés. Les trois quarts dorment mal. Ils sont quasiment 9 sur 10 à ne pas être suivis correctement médicalement. Et plus d'un tiers aurait déjà fait un burn-out. Une santé qui se détériore et qui les rend pessimistes. Seulement 36% estiment que leur avenir professionnel est positif. C'est pas énorme.
Merci Julien, on se retrouve tout à l'heure pour le mot de la fin.
À tout à l'heure Fabien.
BFM Business, Check-up Santé, l'entretien.
Isabelle Veil, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors Isabelle, j'ai l'impression que le mot énergie a été inventé pour vous. Depuis que je vous connais, vous soutenez toujours une cause. Ça a été la mort subite, ça a été sa prévention, sa prise en charge par les défibrillateurs que vous aidez à diffuser en France et même à l'étranger. Et sans oublier ces causes, vous battez maintenant pour sensibiliser le grand public au danger des maladies cardiovasculaires qui touchent la femme. Alors, c'est vrai que cette femme du 21e siècle, elle travaille, elle fume, elle prend des hormones, elle stresse, elle met des pantalons. Horrible. Et patatras, ça touche son petit cœur. Qu'est-ce que vous en pensez
Écoutez, voilà, effectivement, il faut savoir qu'une femme sur trois meurt de maladies cardiovasculaires dans le monde. C'est 8 fois plus que tous les cancers féminins. Donc, c'est une vraie catastrophe. 9 millions de morts par an. Donc c'est énorme. Et en 15 ans, le nombre d'hospitalisations chez les femmes de moins de 50 ans pour un infarctus a été multiplié par 3. Donc voilà pourquoi je me bats. Je me bats parce que je veux prévenir les femmes qu'il faut faire attention effectivement à leur cœur, qu'elles peuvent mettre des pantalons. Mais en revanche,
c'est pas encore un facteur de risque. Voilà.
Et c'est, mais faut qu'elles fassent attention à leur cœur.
Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs de risque qui sont pas évitables. Hein. C'est l'hérédité, je veux dire la génétique.
Oui, tout à fait.
L'âge, etc. Il y en a d'autres qui sont évitables.
Il y en a qui sont effectivement évitables. Il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, l'hypercholestérolémie. Il y a malheureusement le fameux tabac dont vous parliez à l'instant, surtout associé à la contraception. Chez les jeunes femmes, c'est juste un tueur silencieux. C'est-à-dire que ces jeunes femmes qui fument et qui ont une
de plus en plus jeunes en plus.
De plus en plus jeunes parce que on a des jeunes femmes à qui on pose des stents à 35 ans. Donc c'est quelque chose qui il y a 10 ans on n'en parlait pas. Et effectivement, le tabac plus la contraception, c'est vraiment un tueur silencieux pour les jeunes femmes.
Alors évidemment, il y a des facteurs, vous disiez, il faut agir sur ces facteurs évitables, hein, le tabac, la sédentarité, mais aussi avoir du plaisir, peut-être, non? Vous parlez de recettes de bonheur avec la fameuse recette danoise.
Oui, le hug. Alors, c'est effectivement être bien chez soi, éviter le stress quand vous arrivez, mettre des bougies, allumer donc ces fameuses bougies, mettre des chaussons bien chauds, peut-être avoir un animal, parce qu'on sait que la présence d'un animal déstresse, et puis surtout prendre un petit peu de temps pour soi, ce qu'on arrive de plus en plus de mal à avoir, parce que les femmes sont quand même maintenant, il y a quand même beaucoup de familles monoparentales, donc c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il faut absolument apprendre à ces femmes, à peut-être avec des petites techniques de sophrologie, et puis faire un peu d'éducation physique et lâcher un peu prise, ce qui est un peu compliqué.
Mais c'est vrai que se faire plaisir, c'est très important. Le bonheur, c'est un anti-facteur de risque. Alors, vous présidez la fondation Agila. C'est quoi cette fondation Agila ? Alors,
nous avons fondé la Agila il y a maintenant 8 ans. Dans un premier temps, nous avons traité la problématique de l'arrêt cardiaque parce que nous sommes partis du constat qu'il y avait 50 000 morts en France et qu'on avait 2% de vies sauvées. Donc en 8 ans, nous avons
tenu
femmes et hommes. Oui, tout à fait. C'était sur l'arrêt cardiaque et nous avons triplé le taux de survie en 8 ans. Nous avions de 5 000 défibrillateurs à maintenant 120 000 défibrillateurs installés en France. Il faut savoir évidemment qu'on ne vend pas de défibrillateurs. Je suis un peu le derviche tourneur. Je vais voir. Je fais partie. Enfin, de compte, je représente la société civile et je vais voir l'État. Je vais voir les entreprises, je fais avec le grand public des opérations sur le terrain et donc j'essaie de sensibiliser. Et donc il y a 3 ans justement, j'ai voulu parler des maladies cardiovasculaires chez la femme qui était un tueur silencieux et j'ai adopté les mêmes principes que j'ai fait pour justement l'arrêt cardiaque.
Et donc vous lancez l'opération Sauver le cœur des femmes.
Exactement, Sauver le cœur des femmes, qui est une opération qui existe alors depuis 12 ans aux États-Unis, qui s'appelle Gorette for Women. Ils ont depuis 2 ans inversé les courbes, ça veut dire que maintenant les femmes ont compris et sont sensibilisées. Et ce que j'aimerais pouvoir faire effectivement, c'est de sensibiliser les femmes. Et on a lancé il y a 3 ans une étude épidémiologique, 2 ans excusez-moi, une étude épidémiologique sur 7000 femmes. On attend les résultats cette année, on a un comité
sur la perception qu'ont les femmes de leur risque cardiovasculaire.
Tout à fait, sur la perception. Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que plus elles sont à risque et moins elles sont au courant qu'elles sont à risque.
C'est vrai que les symptômes ne sont pas toujours les mêmes chez l'homme,
oui,
chez la femme.
Oui, tout à fait.
Donc, ça peut prêter à confusion.
Voilà. Exactement.
Alors, donc, c'est une opération très sérieuse. Il y a un comité scientifique.
Tout à fait. Nous avons un comité scientifique. Alors, nous avons le professeur Desnault à l'hôpital de Georges Pompidou. Nous avons le professeur Ménaché. Nous avons aussi des épidémiologues, dont un au Canada qui nous suit. Et nous avons aussi Nicole Caram, qui est une épidémiologue reconnue à l'hôpital Pompidou. Nous avons un cardio, parce que nous avons besoin d'un cardio. Une nutritionniste comportementaliste, parce qu'il faut savoir que tout ce qui passe par l'assiette, diète. Si vous avez un comportement sain au niveau de la nutrition, vous aurez un comportement sain au niveau de l'éducation physique, au niveau de votre stress. Donc c'est très important. Et nous avons donc ces résultats de l'étude épidémio le 7 avril, parce que ce 7 avril, pour nous, c'est un jour particulier.
Alors vous avez évidemment, je ne vous manquais pas de personnalité qui vous aide, non, pour cette opération. Vous, donc... Il y a un programme bien défini, donc ça commence en avril, c'est ça?
C'est ça, exactement. Le 7 avril, nous avons ce fameux Red Day qui est un jour national où nous demandons aux femmes de porter du rouge et aux hommes aussi de nous soutenir. Et nous avons effectivement des marraines du type le groupe Brigitte. Nous avons Anne Roumanoff aussi qui nous, cette année nous suit.
Ça va pas la changer, elle est tout en rouge.
Exactement, c'est pour ça que quand je l'ai contactée, j'ai dit écoutez, Anne, je vous connais pas, je lui ai envoyé un gentil petit mot, elle m'a répondu d'une façon tellement gentille, et je lui dis si quelqu'un doit être en rouge ce jour-là, c'est vous, parce que vous l'êtes toujours, et aujourd'hui encore plus qu'un autre jour.
Alors, donc, ça ne s'arrête pas en avril, évidemment, après ce Red Day, il y a aussi un défilé...
Oui, alors le Red Day, donc le 7 avril, nous avons donc cette étude épidémio que nous allons sortir, plus une étude que nous allons faire aussi avec Visiomed pour des objets connectés, pour voir un petit peu justement pour suivre sa tension artérielle. Et nous avons une étude d'opinion, pas une étude épidémio, parce que on voulait justement être très large et avoir cette étude épidémio qui est quantitative et l'étude d'opinion qui était qualitative pour nous permettre d'avoir un résultat vraiment qu'on puisse utiliser.
Ouais. Sur combien de femmes sur
on est en tout sur plus de 7500 femmes, dont évidemment certaines
d'âge différent,
ah oui, de 18 à plus de 50 ans, bien évidemment, parce qu'on est en train de regarder, parce que l'AVC a été multiplié par 3 sur les femmes entre 45 et 64 ans, donc nous voulons voir effectivement ce ressenti par rapport à l'AVC, et nous allons, comme je ne veux pas non plus avoir des messages anxiogènes, le 30 juin, nous faisons un raid défilé, c'est-à-dire que nous avons une quarantaine de personnalités femmes qui seront habillées en rouge et qui vont défiler pour porter ce message, ce cri d'alarme.
C'est un lieu très connu, le VIP room, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, au VIP room, et nous avons 40 designers, dont Elissab, Cardin, mais aussi Courrèges, mais aussi Polka, enfin toutes ces marques qui nous ont gentiment prêté une tenue en rouge pour habiter ces personnalités. Nos journalistes chez nous vont effectivement aussi s'habiller en rouge pour nous soutenir et vont défiler. Donc effectivement, c'est un joli message que l'on fait porter aux femmes.
Et le but, c'est de faire tourner évidemment les réseaux sociaux pour diffuser le maximum.
Et maximum, on fait les réseaux sociaux, les sites internet, tout.
Et on termine par une partie de pétanque.
Bah oui, on termine, c'est-à-dire qu'on débute la saison, si je puis dire, pour la terminer au mois d'août sur à Saint-Tropez. On fait voilà, on fait un peu show-off et on invite pour la troisième année toute la place des Lys en rouge avec des triplettes hommes-femmes pour justement parler de ces maladies cardiovasculaires, mais d'une façon plutôt enjouée. Et donc nous avons une exposition pédagogique en même temps que les femmes et les hommes jouent à la pétanque et on finit la soirée en dansant parce que c'est ça qui est bon aussi. C'est quand on a de l'amour, de la gaieté et que le cœur va bien.
Très bien. Après, je ferai un check-up gratuit, évidemment, à toutes les marraines de la Fondation.
Merci
Isabelle, reine de la Red Attitude. Et restez avec nous pour la chronique de Derwan Maurice et Smart Santé.
BFM Business, check-up santé, Smart Santé.
Bonjour Erwan.
Bonjour Fabien.
Alors on reparle, c'est le sujet évidemment un peu aujourd'hui, hein, on reparle d'urgence, avec cet objet qui pourrait... peut-être nous sauver la vie.
Oui, tout à fait. Cet objet, c'est un bracelet qui s'appelle Liva. Et alors, on pourrait croire que c'est un bracelet connecté. Eh bien non, c'est un bracelet connectant. Alors, pourquoi connectant? Parce qu'il n'y a pas de technologie à l'intérieur, il n'y a pas de haute technologie. C'est simplement un QR code, donc, comme un code barre qu'on va pouvoir scanner avec son téléphone. Et alors, pourquoi est-ce que ça peut sauver la vie? Eh bien, parce que dans ce bracelet, vous allez pouvoir entrer vos données personnelles, hein, votre adresse, votre âge, votre groupe sanguin, le numéro de votre médecin traitant, dire si vous faites des allergies, si vous suivez des traitements, ou encore prévenir si vous êtes, eh bien, donneur d'organes. En scannant le bracelet, vous retrouvez toutes ces informations sur le téléphone, ce qui fait gagner beaucoup de temps, hein, dans des situations d'urgence.
Il y a une petite connexion quand même, avec celui qui va scanner.
Oui, voilà, exactement. Alors, il faut effectivement que la personne qui va scanner le bracelet soit au courant que vous avez évidemment ce bracelet, de la manière dont ça marche. Mais enfin, une fois que ce bracelet est scanné, vous retrouvez donc toutes ces informations sur le téléphone. Par exemple, si vous avez un accident de la route, eh bien tout de suite, on va pouvoir connaître votre groupe sanguin, savoir si vous êtes allergique à des médicaments, savoir qui contacter et tout ça, eh bien seulement en quelques secondes. Donc effectivement, oui, ça peut sauver des vies.
Isabelle, il manque les défibrillateurs, alors là.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais Erwan, nous avons, nous, créé, il y a maintenant 4 ans, une application qui s'appelle Stay Alive, et qui est une application qui a été téléchargée 1,5 million de fois, qui est une application gratuite, bien évidemment, qui vous permet en temps réel de savoir où il y a un défibrillateur le plus proche. Et donc, vous pouvez, à tout moment, géolocaliser un défibrillateur pour, en cas d'arrêt cardiaque, l'utiliser. Les secours connaissent cette appli, l'utilisent maintenant, parce que, justement, on en a besoin. Et on a créé un groupe qui s'appelle les Bons Samaritains, qui sont des gens, comme vous et moi, qui s'inscrivent dans cette appli, qui peuvent être à tout moment appelés par les secours, parce qu'ils sont proches de l'arrêt cardiaque et qui vont pouvoir sauver une vie aussi.
D'accord, qu'il faudra vous mettre en rapport avec ce fameux bracelet Liva. Alors, on continue avec cette application qui répertorie les places aux urgences.
Oui, tout à fait. Pas la peine de vous dire que les urgences sont bondées. Tout le monde le sait. Et puis c'est fait pour. Et c'est pas typiquement français. Ça existe dans plein de pays. Ça se passe comme ça. Et bien justement, je vais vous parler d'une idée qui vient de Montréal. 4 jeunes ont inventé Docteur, D-O-C-T-R. Donc c'est une application qui donne en temps réel le taux d'occupation de toutes les urgences du Québec, puisque les données des services de santé sont publiques et donc ces entrepreneurs ont pu les utiliser pour créer cette application. Alors bien sûr, si vous êtes en état d'urgence vitale, vous n'allez pas consulter l'appli pour savoir s'il reste de la place aux urgences, vous allez y aller tout de suite. Mais combien de personnes vont chaque jour aux urgences alors qu'elles auraient simplement pu aller voir leur médecin traitant? Eh bien, d'après le ministère de la Santé québécois, 60% des visites aux urgences pourraient être traitées par un médecin de famille ou par une clinique. Eh bien, c'est pour ça que l'appli Docteur vous donne non seulement le taux d'occupation des urgences autour de vous, parce que vous êtes géolocalisé, mais elle va aussi vous proposer l'adresse d'une clinique à proximité où vous pourrez voir un médecin sans rendez-vous.
Et tout ça, c'est au Québec?
Ça, c'est au Québec. Il y a plus de 80 000 personnes qui l'utilisent là-bas, mais on peut se dire que ça pourrait être une bonne idée pour l'exporter.
Pourquoi pas. Merci, Erwan. Merci. On va passer maintenant au dossier urgence. Merci.
BFM Business. Check-up santé. Le dossier de la semaine.
Pascal Chansard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de SOS Médecins France. Olivier Pentier, bonjour. Vous êtes interne au SAMU de Necker. Et vous êtes aussi président de l'ISNI, c'est l'intersyndicale nationale des étudiants en médecine et en chirurgie.
On est bien d'accord? Des internes en médecine et chirurgie.
Des internes en médecine et chirurgie. Alors, Pascal Chansard, c'est toujours un souci, les urgences, le réseau de soins d'urgence en France ou pas? Ou ça s'améliore?
Ah, c'est toujours un souci. C'est un souci qu'on mesure avec les crises qui se sont passées dernièrement, par exemple pendant la grippe. Mais en fait, on essaye quand même d'améliorer la coordination et la complémentarité entre, par exemple, SOS Médecins et le SAMU et les urgences hospitalières. C'est un souci constant. Il y a des initiatives qui se font jour, par exemple sur Paris, avec une association départementale. Et je pense que ça permet de mieux gérer les urgences, effectivement.
Vous, Olivier, vous pensez aussi que les urgences, il y a mieux à faire ou pas?
Il y a du travail. Nous, jeunes médecins,
À quel niveau?
Très motivés pour justement cette articulation, que ça soit en amont via les structures de régulation, que ce soit le SAMU ou SOS Médecins, qui travaillent ensemble très souvent, ou même les urgences en tant que telles sur l'organisation typique du service, ou en aval avec les postes d'hospitalisation et donc les lits qui en découlent.
Alors Pascal Chansard, SOS Médecins, c'est une sacrée aventure de 50 ans maintenant.
Alors, une aventure effectivement créée par le docteur Marcel Lascar, avec la fameuse histoire du tuyau de plomb où il a trouvé un plombier plus facilement qu'un médecin pour soigner un de ses patients. Et maintenant, effectivement, on a 50 ans d'existence, 65 associations.
Plus combien de médecins tout ça?
Entre 1000 et 1500 médecins.
1500 médecins qui travaillent exclusivement pour SOS Médecins. On ne peut pas être installé et travailler pour SOS Médecins.
On travaille généralement en étant installé à SOS Médecins. Ceci dit, il y a des gens qui ont aussi des activités à l'hôpital, aux urgences, au SAMU. C'est souvent des gens qui ont des billets d'appartenance. Et 65 associations réparties sur tout le territoire français.
Quelques millions d'appels?
6 millions d'appels par an. 6 millions d'appels. Et donc on fait à peu près 2,5 millions d'actes, visites et consultations aussi par an. Donc cette différence s'explique par notre régulation, parce que le SOS Médecins, c'est le couple infection et régulation, ce qui nous permet d'apporter à nos patients à la fois un conseil, à la fois une consultation et surtout effectivement une visite à domicile, qui est l'ADN de SOS Médecins.
Est-ce que vous subissez un petit peu la pénurie de médecins en France?
Complètement. complètement.
Vous êtes toujours en demande de...
Tout à fait. Nous, si on pouvait, tous les associations SOS Médecins sont en demande de recrutement de jeunes médecins. On va dire essayer SOS Médecins, c'est l'adopter, puisque quand les jeunes médecins arrivent chez nous, ils aiment bien y rester, ils viennent voir, et puis généralement ils y restent.
Ils y restent pourquoi? Parce qu'en fait, c'est finalement un protocole, un mode d'exercice assez particulier.
Assez particulier.
Où on travaille pas tous les jours.
Pas tous les jours. On peut modeler ses horaires, et les jeunes médecins sont assez attirés par ce type d'exercice.
Olivier, vous avez aussi travaillé non pour SOS Médecins?
J'ai fait quelques remplacements en effet, oui. Interne, on peut faire des remplacements libérales, c'est une activité libérale.
Alors justement, comment ça se passe cette collaboration entre le public et le privé? Vous trouvez, Pascal Le Chancelard, que ça se passe bien ou?
Alors, ça se passe, on voudrait que ça se passe encore mieux. Il y a une convention entre les SAMU Centre 15 et SOS Médecins qui existe depuis 2004. Mm-hmm. Maintenant, donc, avec la nouvelle loi HPST, elle a été renouvelée. On voudrait même que cette convention d'interconnexion, elle soit un peu plus numérique, avec des transmissions de données et des choses un peu plus modernes. Mais on échange, je veux dire, constamment avec... Olivier, qui travaille aussi à Necker, il le voit bien tous les jours. On échange complètement nos informations de façon quotidienne.
Le patient, directement, on peut appeler le 15, évidemment, mais souvent, ce sont les médecins généralistes ou traitants ou SOS médecins qui appellent le SAMU.
Oui.
Et en général, ça se passe bien. On dit souvent qu'il y a un petit flou. Après, une fois que le SAMU arrive, on ne sait plus où va le patient, etc.
Nous, on a un bon suivi. On sait exactement. Après,
vous savez où part après le patient quand il est hospitalisé?
Oui, je me renseigne toujours parce qu'effectivement, c'est pas évidemment. D'abord, ils font les opérations médicales, mais après, oui, on le sait.
Olivier, vous faites un point d'honneur, c'est ça? Informer. Est-ce que vous informez vraiment vous qui êtes dans la vraie vie, vous êtes dans les camions du SAMU, vous cherchez une place dans un hôpital, dans un service d'urgence. Est-ce que vous informez après le médecin généraliste?
En pratique, ce qui se fait, c'est que souvent le médecin d'SOS médecin est sur place quand c'est le cas. Il y a la prise en charge initiale qui commence à être faite par l'équipe de SMUR. Et après, c'est vrai qu'il y a la recherche de place qui peut parfois durer un certain temps. Et c'est vrai que peut-être que c'est à ce moment-là où l'information peut se perdre. Mais globalement, l'information est transmise et le suivi est effectué. Mmh.
Globalement, on a assez de connaissances au SAMU pour retéléphoner et puis savoir où a été transféré le patient et un peu quel était son devenir. Après, recevoir un compte rendu, c'est autre chose.
C'est autre chose. Vous voudriez ou pas? Vous laissez ça au médecin traitant ou?
On les reçoit, mais disons que c'est souvent assez, un peu plus difficile.
Olivier, il faudra en parler au Big Boss. Très bien. Donc, vous, en fait, vous plaignez à l'inverse de SOS Médecins, des médecins de SOS Médecins qui ont l'air d'être contents de travailler. Vous, en fait, vous plaignez de trop travailler. Ou pas?
D'un point de vue général.
D'un point de vue général, et peut-être aussi aux urgences.
Parce que
vous présidez donc l'ISNI, qui est l'intersyndicale nationale des internes.
Exactement. Donc, en fait, l'ISNI, qui représente l'ensemble des internes de France, effectue justement une étude qui montre que les internes travaillent au-delà de 60 heures par semaine, sachant que la loi européenne, c'est 48 heures, ça borne à 48 heures. Mmh. Et récemment, justement, on se rend compte que les urgentistes, c'est plutôt autour des 39 heures, d'après les dernières lois, pour travailler. Donc, c'est vrai que nous, on met...
Est-ce qu'on peut comptabiliser son temps? Est-ce qu'on peut compter son temps quand on est étudiant et qu'on bosse dans des services?
Oui. C'est compliqué justement de compter son temps. Alors on a des outils qui sont des tableaux de service qui nous permettent de justement mettre des demi-journées, c'est des plages horaires. Après c'est compliqué justement de faire cette transformation et malheureusement en fait on voit que souvent on fait beaucoup trop de cliniques au détriment de la formation, que ce soit initiale ou continue, et ce qui est pas forcément favorable à une bonne qualité des soins, à une bonne prise en charge des
patients. Donc vous dites que trop travailler donc nuit à la formation de l'interne.
En tout cas trop travailler nuit à la qualité des soins qui sont prodigués. Mmh.
D'accord. Et ça, c'est volontaire ou involontaire? J'imagine que l'interne, il ne voit pas ses horaires, il a envie de bosser. C'est
l'interne, il voit les patients devant lui qui attendent et il veut les soigner au mieux. Ouais.
Et que disent les directeurs d'hôpitaux? Que disent les chefs de service?
C'est compliqué. La démographie médicale, on en a parlé tout à l'heure, la démographie médicale fait qu'il y a quand même moins de médecins, on va dire, seniors. Ouais. Donc, c'est vrai que ça bascule des fois sur les médecins juniors que sont les internes. Mmh. Et cette articulation fait que c'est à flux tendu, notamment en période d'épidémie.
Il y a un moyen d'aider les internes pour ça, le SAMU,
nous aussi,
oui.
On est toujours à flux tendu en période d'épidémie et on travaille énormément en période d'épidémie. Effectivement, c'est pas en termes de 39 heures, mais en termes de 60 heures. Mais à un moment, on arrive à des saturations et on...
Donc, si vous aviez un petit coup de gueule à passer.
Alors, le coup de gueule.
Peut-être sur les vraies et fausses urgences, non?
Alors, On a parlé, oui, il y a les frais, les fausses urgences. Moi, j'ai plein de coups de gueule. Il y en a un.
On va en laisser un à Olivier.
Il y en a un que je voudrais qui concerne pas les urgences, qui concerne la vaccination.
Oui.
Quand je vois un petit peu l'esprit anti-vaccination qui se propage en France alors que ça n'existe pas dans les autres pays, je trouve ça dommage que le taux de vaccination, et c'est vraiment.
Vous avez parfaitement raison.
Qui protège les gens, qui a sauvé des millions de gens.
Le deuxième coup de gueule?
Ah, le deuxième coup de gueule, je dirais que c'est laissez-nous soigner, quoi. Laissez-nous du temps médical.
Parce que c'est vrai qu'on a mis parfois quelques bâtons dans les roues du SAMU, hein. On l'a vu il y a quelques années.
Des SOS aussi.
Les PV, par exemple, les contraventions à Paris.
Voilà, les PV, les contraventions, toutes les contraintes administratives. Le troisième, c'est qu'il faudrait pas trop faire d'hospitalo-centrisme et pas d'ostracisme et plus nous reconnaître, en tant que SOS.
Olivier, très rapidement, s'il y a un coup de gueule pour améliorer les choses. Très rapidement, vous avez 5 secondes.
5 secondes. La formation, il faut vraiment qu'on soit formé au mieux. En effet, l'hospitalocentrisme, c'est pas forcément le meilleur modèle. Formé de partout, pour tout le monde, pour prodiguer les meilleurs soins. Là, il y a une réforme qui se met en place, sur laquelle on n'est pas forcément d'accord. Mais justement, c'est pour ça, on veut une qualité des soins optimale.
D'autres occasions, c'est sûr, d'en parler. Merci Pascal Chansard, vice-président de SOS Médecins. Merci Olivier Lepentier, président de l'ISNI. Ce n'est pas terminé. On va finir avec les mots de la fin de Julien Gaillardy.
BFM Business, Check-up Santé, le mot de la fin.
Alors Julien, le mot de la fin, c'est...
C'est mémoire. Et voilà, et retenez bien ce que je vais vous dire, car ça peut justement vous servir, parce que figurez-vous que des chercheurs ont découvert qu'il était possible de doubler, je dis bien doubler, la capacité de mémoire de votre cerveau, et ça en seulement un mois. C'est très utile évidemment pour tous ceux qui nous écoutent. C'est une étude qui est parue dans la revue américaine Neurone, et les scientifiques justement dans cette revue nous expliquent qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, et c'est même à la portée de tout le monde. La technique à utiliser, elle s'appelle la technique des loci. Et je vous explique de manière assez simple. Il suffit par exemple d'associer le mot ou le terme que vous voulez retenir et vous l'associez à un lieu. Et prenons par exemple les pièces d'une maison. Et ensuite, vous avez simplement à vous déplacer en fait dans cette maison imaginaire et du coup de retrouver tous vos mots. Vous comprenez un peu la logique pour faire tout simplement en fait la connexion, pour faire des associations d'idées. Les patients testent de nos chercheurs, en tout cas, ils se souviennent de ces mots, de cette suite de mots, 4 mois après le premier test. Et grâce à cette méthode d'association, ils les retiennent beaucoup plus longtemps et beaucoup plus facilement que s'ils avaient simplement retenu des mots avec une méthode plus classique, parce que le test avait été effectué également avec un autre groupe de patients test lambda. Cette méthode des loci, c'est une méthode qui est digne des plus grands champions de la mémoire. Et d'ailleurs, quand on étudie leur cerveau à ces champions, par rapport à notre cerveau, on se rend compte que justement, il y a plus de connexions neuronales qui sont faites justement dans leur cerveau. Donc voilà, ça s'appelle la méthode des loci, une technique très simple et efficace.
Merci Julien. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est donc la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à nos invités, merci à nos chroniqueurs.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.